Ça va toujours ?
Grand 8. Accrochez vos ceintures, gardez vos mains et vos oreilles à l'intérieur de l'habitacle.
Culture, carte blanche à une personnalité,
société,
grand entretien,
live
exclusif,
art,
sélection des meilleures productions du mois,
Radio Grenouille.
8h en direct.
C'est parti pour le Grand 8, le magazine de la rédaction.
Ouais, vous êtes prêts ? On peut y aller ?
Alors je disais 10 ans d'immersion dans les quartiers nord de Marseille parmi les plus inégalitaires de France. Mais Philippe Pujol aime à rappeler que c'est une plongée dans Marseille, la ville la plus française de France. C'est ça, Philippe Pujol ?
Oui, complètement.
En fait, Marseille, c'est la ville la plus française de France.
En ce qu'elle regroupe tout ce que la France possède, c'est-à-dire qu'on a des quartiers populaires, des banlieues, mais dans la ville. Donc, si on parle de Paris, on va parler de la banlieue parisienne. On sépare les deux choses. Mais nous, on n'a pas besoin de les séparer. On a ça dans la ville. On a une bourgeoisie ultra présente qui a fait sa fortune sur l'époque coloniale. Et comme à Bordeaux, comme à Nantes, comme à d'autres villes encore, on a un port, donc, comme de nombreux ports. On a aussi un bouillon culturel, pour le côté positif. On a un Front National qui ressemble à celui de Hénin Beaumont, etc. On va avoir énormément de choses qui sont éparpillées en France. Et bien nous, on a tout compilé sur une ville avec les atouts et les inconvénients qui vont avec. Et en plus, comme on a énormément de retard sur à peu près tout, il est très facile de en comparant avec ce qui s'est passé ailleurs, de faire un point sur la société française dans son ensemble, sur la République. D'ailleurs, moi, la fabrique du monstre, le monstre, mon monstre, parce que qu'une fois
vous
qu'on
avez posé cette question, mais c'est qui ce monstre?
Ben oui, voilà, mais en fait, c'est le quand on a écrit un livre, il ne nous appartient plus, ce livre. C'est-à-dire que chacun y trouvera son monstre. Moi, le monstre, c'est la République malade, qui ensuite va enfanter de plein de radicalismes différents, plein de problématiques différentes. D'autres vont trouver que le monstre, c'est le Front National, d'autres vont dire que le monstre, c'est les quartiers nord, la misère. Moi, mon monstre, c'est la République malade. Et je trouve que Marseille n'est pas un cas à part, mais est une sorte de lamelle sur laquelle on peut mettre un microscope et un concentré de tout ça.
C'est-à-dire que quoi, Marseille rend visible, d'une certaine manière, l'état de la France aujourd'hui ?
D'autant plus que Marseille assume beaucoup de choses. C'est-à-dire que la misère n'est pas cachée, n'est pas repoussée. Enfin, elle est repoussée politiquement parlant, mais c'est pas très compliqué pour les médias de la filmer, de la montrer. Et au quotidien, on est confronté à cette misère, puisqu'elle est tout simplement dans l'hypercentre de Marseille. C'est là où, parmi les quartiers les plus pauvres de Marseille. Et le clientélisme aussi n'est pas particulièrement caché. Il est assumé. Des fois, on entend des phrases, on sent bien que les élus le revendiquent presque, en se disant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Je vois pas quel autre mode politique il y a. » Alors que les Balkany vont pas du tout avoir le même discours sur le clientélisme. Ils vont le réfuter. Là où ici, on le réfute même pas vraiment, quoi. Donc, ça permet vraiment de bien comprendre la France. Et d'ailleurs, on se trompe pas, parce que les journalistes étrangers, le journaliste du New York Times, que je rencontre régulièrement à Marseille, le journaliste, une Irlandaise en ce moment, qui travaille beaucoup sur Marseille, une femme du Guardian, il y a de nombreux pays qui s'intéressent à Marseille. Il y a la communauté européenne qui s'intéresse à Marseille, qui est en train de se créer une cellule pour observer Marseille.
Simon tout à l'heure disait prix Albert Londres 2014, et je crois savoir que c'est prix Albert Londres aussi pour, d'une certaine manière, grand reporter. Maintenant on dit de Philippe Pujol, vous êtes un grand reporter, comme si vous aviez été enquêté à l'autre bout du monde, dans les bas-fonds de Bogota, on ne sait où. Mais en fait, c'est à Marseille, donc on peut être grand reporter à Marseille.
Déjà par la taille, je suis grand. Donc c'est déjà pas mal. Après, beaucoup de reporters venaient d'Europe entière, du monde entier, parce que j'ai fait le fixeur, moi, pour gagner des sous. J'ai fait le fixeur d'Australien.
Fixeur, ça veut dire quoi ?
Fixeur, ça veut dire qu'en gros, je fais le boulot des journalistes qui viennent du bout du monde. Je leur donne des contacts, je les amène, je leur explique ce qui se passe, je leur trouve des restaurants où bouffer, des endroits où dormir. En gros, on fait tout pour eux. Ils nous payent bien pour ça. Et donc, j'ai fait le fixeur pour des Anglais, pour des Australiens, pour des Allemands, pour des Belges. Et donc, à force de faire le fixeur, je me disais, mais c'est moi qui fais le job. Je fais le truc. Et à la fin, je suis des fois même pas crédité au générique de fixeur. Donc, j'ai fini par faire un travail de grand reporter, mais j'étais sur place, ce qui était d'autant plus facile pour moi. Donc, ensuite, maintenant que je côtoie des grands reporters qui ont eu le prix Albert Londres, donc qui font souvent du boulot à l'étranger, ils nous disent que le boulot est très très dur en Europe. Il est très très compliqué d'intégrer, d'infiltrer, si on peut dire ça comme ça. Moi, ça ne me plaît pas trop, mais en tout cas d'étudier des zones compliquées en Europe. C'est particulièrement difficile. Ça sera plus facile en Colombie parce que, par exemple, il y a des cartels qui ont des attachés de presse des chargés de com qu'on peut avoir. Ça, c'est les Anglais qui m'avaient expliqué ça. Et en fait, c'est particulièrement compliqué, l'Europe, donc Marseille, de faire un travail de grand reporter.
Et quand vous étiez fixeur pour des journalistes qui faisaient du reportage pizza ?
Alors, sûrement dans le tas, oui, bien
c'est
sûr.
C'est quoi le reportage pizza ?
Le reportage pizza, c'est quand un rédacteur en chef, c'est moi qui ai inventé ce terme, c'est quand un rédacteur en chef, une rédaction en chef commande quelque chose, qui est souvent pleine de clichés, et le journaliste doit le lui ramener. Il ne doit pas ramener ce qu'il a trouvé sur le terrain, il doit ramener ce qu'on lui a demandé.
Comme on commande une pizza, on veut des ingrédients, voilà. Et il faut que les ingrédients soient là.
Tu veux une 4 fromages, elle arrive, c'est une 4 fromages. Et là, tu veux un Marseille avec une veuve qui pleure, un politique avec un accent très fort qui a l'air véreux, et je sais pas moi, une association qui dit qu'elle a pas d'argent, et tu ramènes ça, quoi. C'est pas toujours faux, hein, le reportage pizza, hein. Mais en tout cas, c'est ce qu'on t'a demandé, tu le ramènes. J'ai fait le fixeur pour des gens probablement qui ont servi tout ça à leurs clients, hein. Après, je culpabilise pas, moi, hein. J'étais pas des mieux payés, j'ai fait ça parce que ça m'a rapporté du pognon, et voilà. Et puis par la suite, même déjà à cette époque-là, ma production n'était pas du reportage pizza, parce que la Marseillaise ne me demandait absolument rien, et c'est ça qui était bien dans ce qui est bien dans ce journal, c'est que...
Ça, c'était une joie, ça.
Ah ouais, c'est vachement bien qu'on ne te demande pas de ramener absolument quelque chose. Tu constates quelque chose et tu le racontes ensuite derrière. C'est quand même complètement différent. Alors certes, à la Marseillaise, avec un angle, avec une ligne éditoriale connue, c'est ça qui est bien en plus, c'est qu'on sait qui parle. Ça, c'est vachement intéressant. On racontait ce qu'on trouvait sur le terrain. Pas obligé d'aller faire de la séduction, de se prostituer pour aller chercher le lecteur.
C'est qui, Baraka ?
C'est le surnom de ma famille. Alors, on prononce Barak.
Barak.
Baraka, personne ne saura. C'est Barak. C'est le surnom de ma famille et ma famille en Corse. Parce qu'il y a plusieurs familles Benedette. Alors, moi, la légende dit que mon grand-père aurait construit la maison tout seul. Et comme il était très costaud, ben, Barak, ça veut dire à la fois maison et costaud. Et moi, souvent, on m'appelle Barak parce que je suis plutôt grand. Et que je ressemblerais beaucoup à ce grand-père.
Et Barak, c'est avec ce nom qu'on arpente le terrain ou
pas ? Je m'en sers des fois, parce que je me sers de mon côté corse, j'ai la gueule qui va avec, je peux prendre l'accent très facilement, et j'ai remarqué qu'en plus, ils ont dans les cités, ils ont énormément, les jeunes surtout, les très jeunes ont énormément de clichés sur les Corses, et donc je sais très bien en jouer, et je sais jouer aussi sur le contraire. Ils imaginent les Corses tous racistes, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, pour moi c'est complètement faux, et toujours est-il que quand ils me montrent des photos de leur famille au bled, par exemple, et que je leur dis, oh, mais en Corse, moi, c'est pareil. Le truc ressemble à la porteuse d'eau que vous avez là. Ma grand-mère, elle faisait ça. Ou le foulard, ma grand-mère l'avait. Je raconte, c'est la même chose. Et c'est vrai, en plus, je le pense. Mais je sens bien que je marque des points. Je le fais pas exprès, hein, mais je marque des points. Donc maintenant, je sais en jouer. Je sais très bien jouer de mon côté corse. Et puis, un Corse, pour eux, c'est un bandit. Ils ont tort, là aussi. Mais toujours est-il que ça leur donne l'illusion que je suis un peu des leurs. Et puis, ils côtoient un bandit corse, quoi. C'est pas rien. Alors que je suis pas un bandit. Même si j'ai un côté corse. Mais voilà, je sais jouer de ça. Maintenant, ça ne marche pas avec tout le monde, attention. Hein. Ça marche avec des petits genoux, ça.
Aller et venir, compter, repartir, glander, courir, attendre, siffler, gesticuler, déguerpir, revenir, saluer, crier, surveiller, se cacher, se montrer, manger, s'ennuyer, fatiguer, s'enfumer, vendre, compter, se défaire, examiner, puis recommencer. C'est le travail inlassable de Boulle, Kaiser, Bawa, Kitmain Libre, Octave, mais aussi de Bouddha, Saïd, GTA, Bambi, Béguin, M, Le Chiot, Doughboy, Craps, TV, Choumi, Copy, Big Big, Mong Mong, tout ça, des petits travailleurs du shit qui sont shootés au sucre. Hein, des bacs plus 5, plus 6, plus 7. Alors, dans ces noms, dans tous ces pseudos, il y a les pseudos que vous reconnaissez, Philippe Pujol, et puis il y a les pseudos de Charles Robinson, Fabrique de la guerre civile, tous ces surnoms de la cité des pigeonniers. Il y a un moment où la fiction et le réel se rencontrent, c'est assez étonnant, ces surnoms.
Ça ne me surprend pas, parce qu'en fait, tout le monde les surnoms sont donnés parce que la fiction a donné des surnoms. Donc ça tourne en rond. Il y a le mythe Scarface qui est toujours là. Donc chacun se donne un surnom. D'ailleurs, quand on demande aux gamins, choisis-toi un surnom, quand on veut pas donner le vrai nom, moi je dis toujours, choisis-toi un surnom. Je le dis d'ailleurs dans le livre quand c'est le cas. Ils me choisissent pratiquement toujours des noms de bandits. Et moi c'est Mesrine, moi c'est le Sicilien, des rebeux, hein, ou des blacks, hein. Ils me disent le Sicilien, ça, je dis, ouais, c'est pas trop la gueule, t'appelles le Sicilien, excuse-moi, mais ils choisissent ça. Ils vont pas choisir un autre surnom. surnom que ça. Et ça, c'est le fantasme. C'est-à-dire que la fiction et la réalité sont imbriquées l'une dans l'autre. Et la fiction veut raconter la réalité, mais la réalité veut ressembler à la fiction, parce que la réussite sociale, c'est ça. C'est le Miss Scarface, c'est le costard blanc, c'est les gonzesses. Et en même temps, il faut savoir que Scarface... C'est le mythe du grand bandit qui a réussi. Et la réalité nous ramène dans les années 30 à Marseille avec un bandit pas assez célèbre, j'ai envie de dire, qui s'appelle Simon Sabiani, qui a été très bien décrit par Céline dans D'un château l'autre, qui est un des seuls qui en parle bien. Et Simon Sabiani était en costard blanc tout le temps. Ça, c'est un personnage réel, pas de fiction. Costard blanc, voiture de course en permanence et des gonzesses tout le temps. Et il était d'extrême droite, c'était un gros facho, une ordure. Mais un mec qui avait un charisme énorme. Et dans le film Borsalino, ils se sont inspirés de Simon Sabiani pour créer les deux personnages de Borsalino qui se passent à Marseille. Et le cinéma hollywoodien s'est inspiré de Borsalino pour créer ses personnages, etc., d'ascension sociale, de classe absolue, enfin de classe toute relative d'ailleurs, mais voilà, d'apparat en tout cas. Et donc, les minots, ils font que faire perdurer ça.
Mais Kit Main Libre ou Boule ou Kaiser, ça, c'est des noms que vous donnez, vous les nommez. D'un seul coup, vous dessinez comme ça un trait très rapide, une esquisse qui en dit beaucoup, quoi, sur ces personnages.
C'est sur Octave que le nom dit le plus, parce qu'il s'appelle pas Octave, je sais pas son nom. Et en fait, comme il a les dents comme une touche de piano, il a une noire, une blanche, une noire, une blanche, et après il a deux blanches. J'ai trouvé que ça faisait une octave de piano, donc j'ai appelé Octave. Et Kit Main Libre aussi, c'est moi qui donne le surnom, je dis pas pourquoi, parce que je veux que ceux qui le lisent le trouvent tout seul, enfin c'est marrant. Et Kit Main Libre, c'est pas son surnom, il le sait même pas, je sais même pas son nom, c'est un fou, de toute façon le mec il est pas cohérent quand il parle. Donc je ne sais pas son vrai nom.
Et ça a à voir aussi, cette manière de nommer, de faire du croquis, ça a à voir, j'ai l'impression, avec un côté furtif. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que, en tout cas à plusieurs occasions, vous dites que vous avez très peu de temps à passer, ouais, avec ces personnes, et donc il faut rapidement pouvoir comme ça, rassembler, dire quelque chose en un mot, ces phrases choc dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi le nom, quoi.
Bien sûr, il faut qu'on ait un personnage très vite, ça dans l'écriture, mais moi c'est vrai que sur le travail de terrain, je me retrouve confronté à des situations où qu'on me parle pas d'infiltration ou de... C'est pas possible, c'est-à-dire que quand tu parles à des voyous, pendant que tu leur parles, ils gambergent, ils se disent « Oh, je suis en train de parler à un journaliste ». Et donc, là, rapidement, il faut sentir que dans la pupille qu'elle se dilate un peu, qu'il va changer de stratégie, et il faut faire semblant de partir sur un autre sujet et dire, attends, mais je suis pas venu pour toi, je vais souvent
je passe par là, quoi.
Ouais, rénovation urbaine, ça c'est le grand truc, ça marche à tous les coups. Et tu dis non, mais je viens pour les immeubles, là faut les refaire, tac, top, je m'en vais là-bas. Faut pas rêver, c'est pas possible avec certains. Avec les très grands, c'est faisable parce qu'on est avec leur avocat. Avec les tout petits, c'est faisable parce que ils s'encanaillent avec un journaliste corse. Mais par contre, avec les moyens, là c'est compliqué, on peut pas rester longtemps. Donc en effet, après dans la description, mais je le montre ça. Et c'est vrai que Octave. Je donne vite l'explication des dents et on voit le genre de bonhomme qu'on a.
Charles Robinson, je disais également GTA, Bambi, Béguin, M, Le Chiot, Doughboy, Krabs, TV, Choumi, Copy, Big Big, Mong Mong. Là aussi, dans votre écriture, dans ce roman Fabrication de la guerre civile, vous avez aussi comme ça cette capacité à attraper comme ça des personnages. D'un seul coup, juste avec le nom, baf, se déplie toute une histoire.
Ouais, là du coup c'est pas, à la différence de Philippe Pujol, moi je dois pas attraper les personnages, je dois les projeter, donc les faire apparaître comme ça presque ex nihilo sur une page blanche. Il faut qu'ils surgissent, et du coup ce nom c'est à la fois un nom de guerre, puisqu'il y a cette thématique qui est présente dans tout le livre, donc c'est comme les Indiens, quoi, qui se choisissent sur leurs champs de bataille, qui peuvent être des champs de bataille très divers, ça peut être le trafic de shit, ça peut être des questions sociales, ça peut être aller chercher du boulot, il y a plein d'endroits où faire la guerre, mais en tout cas il y a cet impératif là les personnages se choisissent un nom, et à partir de là se déploient un caractère, déploient des aventures, déploient un imaginaire aussi.
Vous êtes d'accord, ça, Philippe, sur comme nom de guerre, quoi ?
Complètement. D'ailleurs, les voyous, d'une manière générale, et y compris les mecs de cité qui ne sont pas des voyous, ils veulent tout de suite se donner un caractère. Alors, quand ils se choisissent le nom, ils se choisissent des noms qui sont valorisants, qui sont soit par rapport à des aspects physiques, soit par rapport à une compétence, soit par rapport à de la bouffe, ce qu'ils aiment. Il y en a un de ses surnoms, c'est Bocuse, parce qu'il fait bien bouffer. Et en fait, il faut rapidement se donner une compétence ou une caractéristique. Après, il y a le surnom qui est donné par d'autres. Et là, c'est souvent moins agréable. Mmh. Ce qui fait que beaucoup de jeunes ont plusieurs surnoms. Celui que se sont donné, celui qu'on leur a donné. Et puis, au gré des endroits où ils vont, ils ont tel ou tel surnom. C'est pas du tout pour tromper la police. J'y pense pas. Puis les flics sont pas si cons que ça. Ils arrivent à faire des recoupements quand même. C'est parce que y a le surnom qu'a donné la mère, souvent. Puis après, il y a le surnom qu'a donné le copain de classe. Et le jeune en lui-même se choisit un surnom qu'il va plutôt mettre en avant, etc. Et pour certains, un surnom va sortir. Mais pour beaucoup, ils ont plusieurs surnoms. Ils en ont deux, trois, qui sont, je vais dire, le surnom d'attaque en cas de guerre, celui pour montrer qu'on est ronflant, puis le surnom de dénigrement qui est utilisé par les autres.
Tout à l'heure, vous disiez que votre écriture, votre style, vous la définissiez de cette manière, une tache de sang sur un drap blanc. On entend tout de suite comme ça cette capacité à mettre une marque d'une certaine manière, à là aussi rejoindre ce que disait Charles Robinson, à projeter comme ça, à que ce soit un éclat. Charles Robinson, votre écriture, est-ce que vous reprendrez ce terme de Philippe Pujol, une tache de sang sur un drap blanc?
C'est une belle image, mais du coup, si on veut parler de cité, en fait, c'est plein de taches, parce que c'est effectivement c'est une tache de sang, et puis c'est un coup de bombe, c'est quelqu'un qui s'est mouché, c'est quelqu'un qui a pleuré, donc en fait c'est plein de taches sur ce drap blanc. En tout cas, là aussi, à nouveau, pour un auteur de littérature, qui est donc pas dans la même situation qu'un journaliste, avec cette façon d'aller, enfin avec ce besoin d'aller faire émerger de la cité et du coup de faire émerger un monde complet dans la multiplicité de ces relations, de ces interactions, de ce qui s'y produit, aussi bien des quelque chose qui a à voir avec de l'aventure entre guillemets ou avec des aventures qui seraient des aventures criminelles, que les toutes petites choses de la vie quotidienne, de la bouffe, un repas, un barbecue sur un toit, etc. Il y a du coup plein de natures de tâches à faire intervenir. Et juste, si je rebondissais, une petite précision de plus par rapport au nom, moi dans le roman, un des enjeux de ces noms, c'est aussi de ne pas indiquer qui est noir, qui est arabe, qui est en général la première grille de lecture qu'on a sur les cités. Il y a cette espèce de... Il y a une surracialisation dans le discours et dans le regard qui est porté sur les gens des cités, que moi je voulais complètement évacuer en n'utilisant que des noms qui ne permettent pas d'assigner une origine. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas d'origine dans le livre, les questions de racisme sont présentes, mais en revanche, on ne peut pas savoir qui appartient à quel groupe.
Mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve que ça en fait des personnages queer, totalement dégenrés, c'est le cas aussi, Philippe Pujol, avec vos textes.
Oui, en fait, à Marseille, c'est plus facile, parce que le banditisme n'est pas communautaire, pas trop, assez peu, peut-être un petit peu depuis peu, les Comoriens, et encore, pour des raisons qu'on peut expliquer, mais c'est assez peu communautaire. Ici, on est de la même cité, on a été dans le même club de foot et on est ensemble, donc il y a moins besoin de je sais pas, ce besoin de cacher le genre, comme dit Charles Robinson. Et donc en fait les surnoms, déjà moi il y en a peu que je choisis, c'est ceux qui se sont donnés eux-mêmes, et je me rends compte qu'il y a assez peu de surnoms qui sont par rapport aux gens. Il n'y en a pas qui s'appellent le noir ou l'africain, ou de temps en temps on va trouver le libanais, le turc, mais c'était plus avant ça, aujourd'hui un peu moins.
Charles Robinson précisait aussi ces noms qui peuvent dire quelque chose qui a à voir avec la bombe, mais qui a à voir aussi avec le mouchoir, avec les pleurs, avec plein d'autres choses. C'est cela aussi les cités, ou c'est ça aussi vos enquêtes, c'est de montrer que ce n'est pas non plus que des flingueurs, que ce n'est pas que des caïds.
Déjà, je parle d'une minorité de personnes. Je focalise sur une ultra minorité de personnes. On ne peut pas le chiffrer, mais c'est vraiment très très peu. Les gens qui tombent dans ces engrenages de banditisme et qui vont avoir des problèmes de ça. Mais bon, moi, c'est ce qui m'intéresse en tant que journaliste. Je passe mon temps régulièrement dans le livre à dire c'est une minorité de personnes. Je le rappelle, évidemment, le lecteur le fait, mais les journalistes qui chroniquent mon livre, eux, ils ne vont pas sans arrêt reprendre ces phrases, je le comprends. Mais donc déjà, c'est une minorité. En plus, c'est un mode de survie, il n'y a pas d'autre solution pour cela. Donc moi je raconte ça, voilà, j'ai choisi de raconter ça et pas les côtés positifs. Mais il y a évidemment énormément de positifs à raconter dans ces quartiers, sauf que si je fais ce livre, je ne le vends pas et je ne suis pas là pour vous en parler.
Dans le quatrième de couverture du livre de Charles Robinson, Fabrication de la guerre civile, on peut lire ceci: « L'enfer est encore en travaux, Mais un jour, ici, il y aura le meilleur parc d'attractions du monde. On a l'impression d'un grand slogan pour la politique de la ville, rénovation urbaine. L'enfer est encore en travaux, mais ici, bientôt, il y aura le meilleur parc d'attractions du monde. Et on voit ces résidences comme ça, en maquette, qui vont dessiner le paysage du futur territoire. Et vous dites, Philippe Pujol, que le business de la drogue, c'est un des piliers de la politique de la ville.
Et malheureusement, je le pense, et j'espère me tromper, hein, mais j'ai l'impression quand même que beaucoup de loyers sont payés avec l'argent de la drogue, que des frigos sont remplis avec ça. J'ai un exemple tout bête, c'est que quand dans une cité, il y a une opération de police qui sature la cité, ils appelaient ça les opérations globales jusqu'à il n'y a pas très longtemps, où ils saturent la cité pendant un mois, donc où le réseau ne marche quasiment plus, parce que le consommateur ne vient plus, on a des augmentations d'impayés de l'ordre de 40% le mois d'après. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils utilisaient cet argent pour des choses simples, pour le frigo. Alors après, oui, il y a aussi les dealers qui se gavent. Ceux-là, ils ne sont plus trop dans les cités.
Charles Robinson, vous avez lu le livre de Philippe Pujol, La fabrique du monstre, et puis vous m'aviez confié qu'en fait il y a des recoupements, des croisements entre ce travail d'enquête et puis la fiction que vous avez écrite. Je rappelle que ce livre, Fabrication de la guerre civile, c'est une suite, en fait c'est une trilogie, hein, parce que vous avez déjà écrit deux livres autour, je crois, de la cité des pigeonniers, cette cité qu'on pourrait situer plutôt en région parisienne. Quels sont les recoupements que vous faites avec votre roman, qui est plutôt donc de l'ordre de la fiction, et puis le travail d'enquête de Philippe Pujol?
Alors, c'est un diptyque, en fait, puisqu'il y avait un livre avant qui s'appelait Dans les cités, et donc Fabrication de la guerre civile clôt ce cycle-là. Donc, c'est deux livres. Et c'est difficile de faire. Enfin, c'est pas difficile, mais ce que je trouvais très frappant en lisant le livre de Philippe Pujol il y a quelques semaines, c'est presque une sorte de climat général. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais l'impression que ce que moi j'avais, entre guillemets, imaginé, et puis ce que Philippe Pujol décrivait, correspondait bien, j'ai envie de dire, on pourrait dire presque en termes d'analyse ou de vision globale. Bon, ça, c'est pas complètement étonnant, mais collait aussi énormément dans les détails, se répondait sur des petites choses, par exemple, quelque chose qui est très présent dans le livre de Philippe Pujol, dont vous avez sans doute déjà parlé, c'est la présence des enfants qui viennent projeter leur innocence en allant traquer des cafards à un moment ou en jouant avec un rat à un autre moment. Et cette espèce de proximité de l'enfance, d'une innocence, d'une joie, et donc aussi de tout un rapport de puissance un peu sauvage qui vient d'être là et qui est assez différente de l'image qu'on peut avoir, une image un peu triste, un peu grise, de gens effacés, hop. Cette espèce de surgissement vital, de crépitement de vie me paraissait très présent, et moi je sais que je m'étais beaucoup posé la question de comment réussir à faire surgir ça dans le roman, et là je le trouvais dans l'enquête de manière très très présente.
Oui, c'est vrai que là aussi, que ce soit en lisant Fabrication de la guerre civile ou en lisant votre livre, La fabrique du monstre, Philippe Pujol, en fait on a le sentiment d'être plongé dans un monde d'adolescents.
C'est une des raisons pour lesquelles ça part en vrille dans les cités, c'est que les jeunes sont abandonnés par les adultes. C'est l'absence de l'adulte. Ah, l'absence n'est pas totale, mais c'est le laisser faire, non pas le laisser faire de la famille, c'est connerie ça. C'est peu fréquent finalement. Mais c'est surtout, ils sont laissés livrer à eux-mêmes, l'adulte n'est plus présent pour plein de raisons, et donc ils se construisent eux-mêmes. Hein. Ceux qui ont lu le livre Sa Majesté des Mouches, ils peuvent voir ce que ça donne de laisser des jeunes ensemble sans cadre. Alors ça fait, ça fait sociologue gauchiste de dire ça, mais c'est pourtant le cas, il faut des cadres, et c'était les adultes qui donnaient ça, et maintenant les adultes, d'ailleurs ils se sont repoussés maintenant, ils ont du mal les adultes à faire avec ces gosses, et ils le disent souvent, ils disent on sait plus quoi faire.
Un promoteur immobilier tamponna les couples Grand et Fonta de Marseille, l'un en offshore, les autres en vedette. Un mort à Saint-Tropez.
At Félix Fénéon. At Félix Fénéon.
Alors on a été perturbé par Félix Fénéon.
Ouais, j'ai entendu ça.
Ouais. Il faisait des tweets, on en parlait tout à l'heure.
Petit tweet sonore, ouais.
C'est l'occasion de dire qu'à Radio Grenouille, on avait accueilli en résidence Adeline, qui, je ne sais pas si tu te souviens de son nom de famille, Julien peut-être, Adeline, qui avait réalisé, avait gagné le prix Ophonia, qui avait réalisé comme ça des espèces d'objets radiophoniques qui venaient perturber la programmation musicale de Radio Grenouille était comme des sortes de dépêches comme ça, ce travail d'être dans les faits. Et ça me paraît important, cette histoire d'être dans les faits. J'aimerais, pour donner un peu à entendre la question des faits, dire quelque chose de ce qu'on peut entendre sur, par exemple, de ce qu'on peut lire, pardon, dans La Fabrique du Monstre, sur l'assassinat de Kader. Alors, on le trouve page 60, quand on se tient vraiment aux faits. Quelques jours plus tard, à l'hôtel central de police de Marseille, un enquêteur me montra les images des caméras de surveillance de Campanile, donc l'endroit où Kader a été assassiné. Dessus, on verra le tueur cagoulé non identifiable. Il y a dans ces images moches de vidéosurveillance un supplément de réalisme qui fait bien comprendre que ce qui se passe là n'est pas du cinéma. À 1h02, la Seat Léon, conduite par Jean-Alexandre Touré, s'arrête devant la grille du Campanile. Le procès-verbal policier fait écho aux images. Les occupants du véhicule semblaient chercher quelque chose à l'intérieur du véhicule. Puis, Jean Touré sortait de la voiture à 1h05 minutes et 59 secondes et se dirigeait vers la sonnette située au niveau du portail. À 1h06 minutes et 21 secondes, en arrière-plan, un véhicule de type BMW de couleur gris clair passait à toute vitesse en remontant l'avenue Saint-Antoine en direction d'Aix-en-Provence. À 1h06 minutes et 33 secondes, Jean Touré s'asseyait de nouveau dans le véhicule alors que la barrière commençait à s'ouvrir, tandis que 4 secondes plus tard surgissait un individu derrière le véhicule provenant de la droite du champ de la caméra, cagoulé et porteur d'un pistolet automatique. Il se postait au niveau de la vitre passager et faisait feu à 6 reprises en 7 secondes sur Abdelkader Berouag qui essayait de se blottir en contrebas du siège passager pour se protéger. Dans l'intervalle, Jean Touré prenait la fuite en remontant l'avenue Saint-Antoine, tandis que quelques instants après, Sarah Item trouvait refuge dans l'hôtel. L'assassin prenait la fuite à 1h06 minutes et 47 secondes, tandis qu'un véhicule pouvant correspondre à la BMW précédemment observée redescendait l'avenue Saint-Antoine à toute allure à 1h07 minutes et 31 secondes. En quoi ? En une minute, la vie bascule.
Ah là, on peut dire que la vie bascule, oui. Et en plus, là, j'ai rien écrit de tout ça, c'est-à-dire que c'est le rapport de police. Ça, c'est les flics qui ont écrit ça. Et d'ailleurs, c'est entre guillemets. Hein. Ça, c'est pour montrer qu'ensuite, j'ai un chapitre qui s'appelle La Rumeur. Et qu'à partir de ça, ça va devenir mais une histoire totalement cinématographique, on dira simplement. C'est que La Rumeur a un rôle très important dans la construction, même de manière très pragmatique, très pratique. C'est-à-dire qui va venger, qui va-t-on devoir tuer par rapport à la mort de Kader, il va falloir le construire autour de cette vidéo-là, voilà, entre autres. Et en fait, on se rend compte que là aussi, c'est pas très rationnel tout ça. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à rendre très rationnel les homicides. Il y en a qui le sont, il y en a, c'est pour des guerres de territoire bien définies, un type gêne, tout ça. Et au bout d'un moment, à coup de vengeance, contre-vengeance, peur que l'autre te tue, donc on le tue avant, etc., on arrive dans une situation qui n'est plus rationnelle.
Oui, c'est la rumeur, c'est la confusion, c'est aussi les multiplicités d'histoires. On ne sait plus en fait qui tue qui. Et ça, c'est très présent aussi dans votre ouvrage, Charles Robinson, cette puissance de la rumeur, cette puissance du flou, cette puissance de... En fait, on ne sait plus très bien qui est contre qui. On a le sentiment, a priori, qu'il y a des bandes claires, qu'il y a des amis et des ennemis. Mais en fait, c'est sans cesse des trahisons permanentes, Charles Robinson, aussi dans cette fabrication de la guerre civile.
Oui, parce que dans la question de la rumeur, il y a aussi la question de fabriquer des récits, d'inventer des histoires qui sont des histoires à la fois pour ressaisir le monde. Finalement, on est un peu spectateur des choses. On est voilà tous, on est à la fois spectateur et puis un peu perdu parce que la vidéo dont parle Philippe Pujol, en fait, personne l'a vue. Donc il y a quelque chose qui s'invente aussi pour ressaisir, pour rattraper, pour être en prise avec ce qui se produit, pour être celui qui sait. Et qui est capable de l'énoncer de la manière la plus juste possible, la plus convaincante possible, aussi pour se placer. Je parlais du nom comme nom de guerre. Quand on raconte une histoire, on se place aussi dans ce récit, dans cette histoire de guerre. On choisit son camp. Et alors effectivement, on peut changer d'un récit à l'autre. On peut changer de place. On peut changer d'allié. Mais voilà, il y a tout ce jeu-là dans l'histoire de la rumeur. Il y a à la fois être le plus malin, celui qui sait, il y a comment on se place dans ces multitudes de récits, comment on place les autres, qui on place en position d'ennemi, qui on place en position d'allié. Voilà, je crois qu'il y a tout ça. Et c'est intéressant parce que cette histoire de la rumeur, au fond, c'est ce qui a toujours fabriqué. C'est la grande fabrique des mythes. Moi, je crois que dans Fabrication de la guerre civile, il y avait cet enjeu-là de rapprocher les cités de la fabrique de mythologie.
Qu'on sent aussi assez présent dans le livre de Philippe Pujol. Claire Duport, qui est donc anthropologue urbaine, ici à l'université d'Aix-Marseille, qui travaille beaucoup sur les questions de délinquance, de criminalité, banditisme dans la région de Marseille, qui va publier donc tout prochainement ce livre Héros au cœur de l'héroïne aux éditions Wild Project. Vous avez aussi lu ce livre de Philippe Pujol. Je vous vois très attentif depuis le début de notre discussion. Vous avez pris plein de notes et je crois que vous aviez comme ça quelques... Bah d'abord, moi j'aimerais avoir votre regard de sociologue, parce que là c'est un travail d'un journaliste, vous, sociologue, comment vous prenez ça, ce travail de journaliste, et puis peut-être quelques questions que vous avez à adresser à Philippe Pujol, Claire.
Ouais. Moi, ce que j'aime particulièrement dans le travail de Philippe Pujol, c'est son écriture, sa forme, son ton, le ton plus que la forme. C'est-à-dire c'est une langue qui claque. C'est une langue qu'on retrouve quasiment jamais chez les scientifiques et qui rend, ce que disait Philippe, qui rend un objet compréhensible, accessible à la plupart des gens, ce qui n'est pas notre cas alors que nous écrivons souvent des choses très intelligentes. Mais on se donne rarement les moyens de cette langue. Donc moi, j'aime beaucoup cette langue. Je voulais juste revenir sur une des choses qu'a dit Philippe, et puis j'ai une question à lui poser, qu'il ne développe pas dans le livre. Je voulais juste revenir sur... tu as dit à un moment que l'argent de la drogue remplissait le frigo, payait les loyers. Je voudrais tempérer un peu ce point de vue. À la fois oui, parce que cette économie de la drogue dans les cités, elle s'inscrit dans un schéma d'économie de la pauvreté. Hein. Et en même temps non. Je ne suis pas d'accord du tout avec ça parce qu'elle remplit le frigo et elle paye le loyer d'une encore plus infime minorité que l'infime minorité dont il parle. C'est-à-dire, alors on a des fantasmes là-dessus, on voit circuler beaucoup d'argent. Mais c'est de l'argent qui circule, ce n'est pas de l'argent qui va dans la poche de ceux qui travaillent. Et un des éléments... pour le coup factuel que l'on pourrait reprendre là-dessus, c'est le procès de la Castellane qui a eu lieu il y a pas très longtemps, hein, au mois d'octobre,
qui
novembre.
Approche du micro, Claire.
Pardon. Donc en octobre, novembre, il s'est jugé le procès du plus gros, disait-on, hein, du plus gros réseau de trafic de drogue des cités de Marseille. 28 prévenus pour 6000 habitants. Hein, 28, et c'est un gros coup de filet, hein, 28 prévenus, donc c'est en effet, comme le dit Philippe, une infime minorité. Mais on voit aussi qu'à l'exception des trois chefs de ce réseau, 24 petites mains qui gagnaient dans les 1000, 1500 euros par mois, il n'y a pas de quoi remplir le frigo des 6000 habitants de la cité.
Mais c'est vrai qu'en lisant, en lisant votre livre... Même si effectivement, je sais pas moi, Kader, il a une Rolex et ainsi de suite.
Ouais, on lui a donné.
Voilà, mais en fait, on les sent quand même, on les sent au fond pas si riches que ça, quoi.
Ah non,
on les sent quand même embourbés, au fond, continuer à être embourbés dans une certaine pauvreté, même si ça brasse de l'argent, on n'a pas le sentiment que ça capitalise.
Ah non, jamais. Non, très rarement, ça, c'est sûr. Sauf pour les quelques chefs de réseau. Juste les 28 qu'on a attrapés sont ceux qu'on a attrapés. Après, il y a quand même beaucoup de chouves, tout ça. Et donc, et puis 1500 euros, c'est en effet pas des grosses sommes. Je pense qu'il y a même moins, au final, parce qu'ils dépensent beaucoup pour fumer, en plus. Ouais. Et, mais ça, c'est mieux que le rien qu'ils ont. Donc, oui, je suis d'accord, ça ne soutient pas totalement les cités, même pas. Mais... ouais, je pense que les réseaux, ben voilà, ben ça fait travailler beaucoup trop de minots quand même, même s'il y en a peu, c'est toujours trop. Je sais pas, on me demande souvent quelle solution il y aurait pour travailler là-dessus. Bon, on n'a aucune idée. C'est des solutions qui vont englober bien plus de problématiques que la simple problématique de la drogue.
Claire ?
Oui, et puis surtout ajouter que si le trafic de drogue se déploie, c'est parce que l'usage se déploie aussi.
Si... Ah oui, s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de...
Évidemment, bien donc la question de la drogue... Alors, on n'a pas à revenir là-dessus sur un ouvrage ou sur les ouvrages de Philippe, parce que comme il le dit, il prend un objet et il le traite par cet objet. Mais en revanche, du point de vue sociologique et encore plus des politiques globales, tu parlais des politiques de la ville, mais on peut dire plus globalement, c'est une aberration de traiter différemment la question des trafics et celle des usages.
Complètement.
Parce que l'un comme l'autre sont absolument liés.
On a aussi, alors par exemple, si on prend la fabrication de la guerre civile, donc on est dans une cité en rénovation urbaine, comme plein à Marseille, et puis cette cité en rénovation urbaine, à un moment donné, tel bâtiment va être détruit, donc il va falloir le murer, donc on libère ses appartements, et en fait on s'aperçoit très vite que ces appartements finalement sont squattés, qui favorisent une autre économie, que par exemple, alors dans la fabrication de la guerre civile, il y a la M organisation, c'est un personnage qui se dit, mais en fait, avec la politique de la ville, je peux faire un petit business, c'est-à-dire que je peux récupérer ces appartes et les louer à des plus pauvres que moi, des sans-papiers, des Roumains, et ainsi de suite, donc on a une exploitation de la misère par la misère. Donc il y a un enchevêtrement extrêmement complexe entre la politique de la ville, très aveugle au regard de ses conséquences, très abstraite, et puis sans doute aussi des systèmes de sur le terrain de gens qui se réajustent d'une certaine manière, réajustent leur réseau, réajustent leur démarche, réajustent leur manière de vivre au regard des perturbations opérées par la politique de la ville. Philippe, Claire ?
Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que la politique de la ville est aveugle à ces problématiques. Quand même. Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est inopérante, ça, d'accord. La première politique de la ville, c'est 1974, donc ça fait 40 ans. Si ça marchait, ça se saurait. Mais aveugle, non. Quel manque de moyens, c'est évident. Pas seulement de moyens financiers, de moyens aussi... intellectuel, enfin éthique aussi, mais aveugle non, faut pas...
Mais quand je disais aveugle, c'est aussi sans doute, par exemple, dans le livre de Philippe Pujol, à un moment donné, il parle des capacités d'organisation de certains, et on s'est dit, mais là, il y a une capacité d'organisation non employée, de capacité de se mettre en entreprise, de monter une entreprise, par
là,
exemple.
Là, on parle de développement économique, pas de politique de la ville. Et en effet, le développement économique aurait tout à gagner à se tourner vers les quartiers populaires où il y a la jeunesse dégourdie, jeunesse motivée, jeunesse qui a envie, qui n'est pas assez formée, qui a des problèmes de formation, mais ça, là, c'est de la politique pure.
Oui, mais c'est aussi une capacité à s'organiser, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que derrière ces histoires de réseau, il y a en fait des talents.
Ah, on parle d'économie de la débrouille, donc la débrouille, des fois, c'est plus que de la débrouille, ils sont plus que débrouillards, ils sont entrepreneurs. Voilà, ils savent entreprendre. Et ils sont ouverts sur le monde, contrairement à ce qu'on pense, contrairement à des clichés, souvent, puisqu'ils rencontrent beaucoup de monde, quand même. Ne serait-ce que par exemple les consommateurs qui viennent et qui sont à peu près de tout horizon et ils sont connectés, c'est des gens qui sont sur Facebook, d'ailleurs c'est impressionnant ce qu'ils publient, d'ailleurs c'est, les flics n'ont pas de boulot à faire, ils n'ont qu'à les suivre et voilà, ils savent créer des choses, ils savent mettre en valeur leurs compétences et le monde économique a peur de ces jeunes pour des raisons que je pense un petit peu racistes ou en tout cas colonialistes. Et le monde politique n'a pas vraiment envie ou ne fait même pas semblant d'essayer de former ces jeunes, les problèmes de formation. Et après, il y a la problématique de l'école, ghetto scolaire. Les ghettos scolaires sont les premiers des ghettos. Le premier des problèmes, c'est celui-là. Et à Marseille, là, on est dans quelque chose de particulièrement lourd.
On va en parler dans un instant avec Magali qui nous parlera des difficultés qu'elle rencontre. Je voudrais juste qu'on reste un instant sur cette capacité d'organisation et d'entreprendre. Charles Robinson, je parlais de la M-organisation. Peut-être que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est que cette M-organisation. Peut-être qu'elle fera sourire Claire et Philippe Pujol. Mais qu'est-ce que c'est que cette M-organisation?
En fait, M est un personnage qui a vécu dans la cité des pigeonniers, mais qui, après une série de mésaventures, a été obligé de s'éloigner pendant un certain temps. Et quand il revient à la cité des pigeonniers, le trafic de shit a été repris en main par un autre personnage qui s'appelle Bouddha. Donc, lui a ses... M a ses proches, mais il y a en face une organisation qui existe. Et du coup, aller se remettre sur le trafic de shit, ça veut dire rentrer en confrontation directe avec Bouddha, ce qui est donc ouvrir une guerre. Et d'abord, il n'est pas sûr de la gagner, et puis ça consomme pas mal d'énergie. Et à ce moment-là, le projet de rénovation urbaine se met en place, et donc il y a un certain nombre d'appartements qui vont se libérer. Donc c'est bien une espèce de ruse et de capacité à inventer de nouvelles activités, à se projeter sur le terrain, qui fait que M, plutôt que d'aller sur une illégalité qui est déjà en place, celle du trafic de shit, décide de créer un nouveau marché, donc d'avoir de l'invention en termes d'économie. C'est une sorte d'économie créative. Voilà, il invente un nouveau marché, il invente une nouvelle économie en louant ses appartements. Et si je rebondissais sur ce que disaient Claire et Philippe tout à l'heure, c'est qu'en fait, toutes les cités sont très... On se trompe si on regarde juste le trafic de drogue, parce qu'en fait, il y a un immense secteur informel qui est fait de plein d'activités, de travail au black, etc. Il y a tout un ensemble d'activités, et ces activités, en fait, elles génèrent, elles, de l'argent, donc elles permettent à plein de gens de vivre. Et elles sont très difficiles. C'est très compliqué pour une société comme la société française qui a à ce point développé de la norme, de la loi, de savoir quoi faire avec ce secteur informel. Donc du coup, il y a vraiment deux espaces qui se développent de manière indépendante et qui peuvent plus se rejoindre, plus se reconnecter l'un à l'autre, et qui sont donc soit en autonomie, soit en hostilité.
Magali, peut-être vous pourriez nous parler un petit peu de ce collectif, de ce collectif des écoles de la Castellane. C'est tenu donc il y a quelques jours les états généraux de l'éducation à Marseille. Je précisais que ce collectif des écoles de la Castellane, c'est un collectif monté il y a un an et demi à peu près. Peut-être vous pouvez nous témoigner un petit peu des conditions de travail pour vous dans les écoles à Castellane. Et puis de ce qu'était l'objectif de ces états généraux de l'éducation à Marseille.
En fait, la création du collectif a été initiée par un événement qui a eu sur la cité, des tirs de Kalachnikov en pleine journée. Nous, les écoles, on essaye d'être un peu à l'extérieur du trafic, etc., parce que notre but étant d'instruire les enfants. Mais c'est vrai que l'ambiance qui règne sur les cités impacte aussi notre travail. Quand les enfants ont eu dans la nuit des tirs qui les ont réveillés à 4 heures du matin, ils vont se réfugier dans le lit des parents parce qu'ils ont peur, etc. Le lendemain matin, on passe une heure à les écouter et à décharger un peu les craintes qu'ils ont eues, et aussi, je vais en parler de la rumeur, mais aussi voilà, à démonter toutes ces rumeurs qui se mettent en place, parce qu'il y a des rumeurs sur les actions de la police, il y a des rumeurs sur les disparitions, parce qu'on a le cas de mères dont les enfants ont disparu, leurs jeunes ados qui ont disparu, qu'on n'a pas retrouvé le corps, qu'on a juste retrouvé un téléphone, et là-dessus, il y a plein de rumeurs qui se mettent en place aussi. Et les enfants prennent l'habitude de vivre à travers ces rumeurs. Même au sein des établissements, on est tout le temps en train de démonter les rumeurs. Donc les enfants n'ont pas l'habitude de prendre des indices de réflexion pour analyser une situation. Donc ça fait partie aussi de notre travail, alors qu'on n'est plus dans l'instruction. Là, voilà. Donc on parlait des ghettos des écoles. Nous, le collectif, il s'est fondé pour ça. Voilà, parce qu'on vit quand même dans un cadre difficile, enfin on enseigne dans un cadre difficile. On essaye que nos écoles soient le plus dans la norme, parce que les enfants et les familles oublient un petit peu ce qu'est la notion de normalité. Il y a des choses qui, chez nous, nous paraissent aberrantes, et pour eux, deviennent la norme. Donc aussi, on est obligé de rappeler un peu ce qu'est la norme, vraiment. Petite anecdote, lors d'un carnaval, on a été obligé d'enlever le déguisement à certains enfants, parce qu'ils s'étaient déguisés en guetteurs. Voilà, hein, ils arrivent avec des calèches, des armes, hein, style Kalachnikov en plastique, avec des masques, avec des larmes de sang, avec les cagoules sur la tête et tout. Et on leur dit, c'est pas un déguisement, ça. Voilà, mais pour eux, ça leur paraissait normal.
Et là aussi, de la même manière que ce qu'on disait tout à l'heure, les cités, ce n'est pas que des problèmes liés à la drogue. Il y a plein d'autres problèmes sociaux et d'abandon de ces quartiers. De la même manière, le problème des écoles n'est pas, et encore plus à Marseille, oui, disons, que le problème effectivement lié aux questions de drogue, mais c'est aussi le délabrement plus général des écoles. C'est aussi dans ce contexte-là que cela se joue.
Oui, ben, le collectif se bat pour ça. Hein. Il se bat en fait pour qu'on ait quelque chose qui paraît normal aussi. Voilà, c'est-à-dire d'avoir du chauffage dans nos classes, d'avoir des revêtements de sol corrects, avoir des peintures, avoir des toilettes qui fonctionnent. On se bat vraiment pour du basique. Hein. Et c'est pareil, ça semble pour la ville de Marseille, ça semble, quand on dit, mais pareil, petite anecdote, visite de sanitaire. Il y avait sur 8 sanitaires, 2 sanitaires qui fonctionnaient. Madame Casanova nous dit, oui, mais regardez, pourquoi on ferait des travaux dans ces écoles? Regardez, il y a des boulettes de papier collées au plafond. Voilà, donc les enfants des quartiers nord n'ont pas droit à avoir des sanitaires parce qu'ils collent des boulettes de papier au plafond.
C'est de leur faute, en fait.
C'est de leur faute, voilà. Hein. Et le discours est maintenu, puisque régulièrement, on parle d'écoles vandalisées, d'écoles, voilà.
C'est le même discours, c'est de leur faute, et le même discours de tant qu'ils se tuent ensemble. Tout ça, ça participe du même discours.
Complètement. Voilà. Moi, j'aurais honte à leur place de tenir de tels discours. Enfin, ce sont des gosses, quand même. C'est, oui, si j'aide des boulettes de papier, je sais pas, il y en a plein qui ont fait ça, j'ai dû faire ça, moi aussi. Hein. C'est rigolo, ça tient, ça finit par tomber au bout de deux jours, voilà, c'est juste des gamins. Mais c'est comme ça qu'on fabrique les ghettos scolaires, c'est comme ça qu'on fabrique toutes les embrouilles qu'il va y avoir derrière. Parce qu'un ghetto scolaire, c'est quoi? C'est ce qui regroupe tous les enfants, non pas qui n'ont pas les capacités à réussir, mais dont les parents ne croient pas en la réussite de l'école. Donc ça va regrouper ces jeunes-là.
On arrive à presque au terme de cette émission, mais j'aimerais qu'on aborde un point que Magali Jean voulait soulever, qui était le fait de quels sont les mécanismes d'alerte. Hein, lorsque les enfants, et là on parle d'enfants qui sont à l'école primaire, commencent à d'une certaine manière quitter quelque chose du chemin de l'école ou du chemin de cette normalité dont vous parlez tout à l'heure. Vous inquiétez, je crois, de cela, Magali Jean.
À la lecture justement du livre de M. Pujol, c'est la question que je me suis posée. C'est-à-dire, quand j'ai vu ces personnages, enfin ces jeunes, je me disais, moi, ils étaient pas bien. Les miens, quand ils sortent du CM2, ne sont pas bien loin déjà de ça. C'est-à-dire qu'ils ont déjà plus du tout, alors je dirais pas le respect de l'adulte, mais le poids de l'adulte. Ils l'ont déjà perdu. Ils ne sont plus des enfants. Ils se prennent déjà pour des adultes, des pré-adultes, pré-adolescents. Certaines familles ont déjà lâché le morceau parce que les familles vivent dans la survie avec des femmes seules, ou alors aussi ce qu'il faut savoir c'est dans les cités, c'est que les femmes seules sont aussi des proies hein, pour les réseaux, donc les réseaux s'adressent directement à elles, donc déjà elles partent à 5h du matin pour aller faire les ménages, les enfants se lèvent seuls, viennent à l'école seuls, restent seuls dans la rue, et là-dessus le réseau en plus les cible ces familles-là pour essayer justement d'avoir de la main-d'œuvre.
C'est toujours le plus vulnérable qui tombe dans le réseau, toujours.
Ils sont très forts pour
cibler. Mais alors quels sont les... Parce que par exemple, Claire, vous avez travaillé sur justement aussi les politiques qui sont mises en place, et notamment comment les éducateurs et les animateurs de prévention dans les cités arrivent à construire un cadre d'action auprès des jeunes impliqués dans les trafics. Alors je ne sais pas comment les systèmes alerte, comment ils se mettent en place?
Déjà, je pense que c'est important de préciser qu'il ne s'agit pas de politique, malheureusement, mais plutôt d'initiative, ce qui rend les choses toujours très fragiles. On n'a pas, en France, initié de politique de réduction des risques de violence, des risques liés à la délinquance. Donc, ces initiatives, oui, elles sont à la fois fragiles et en même temps... Elles sont précieuses parce que, oui, l'échec scolaire, l'absentéisme sont souvent les premiers signes. Hein, les premiers signes. Et la rue a un côté attractif pour des gamins dont ce monstre, hein, qu'est la République malade, ne propose pas grand-chose. Donc pour ces gamins qui ont peu de perspectives ou qui pensent avoir peu de perspectives, la rue a un côté attractif au niveau des relations sociales aussi qu'on peut y nouer. Et donc la déscolarisation, c'est une des c'est souvent une des premières alertes.
Mais on a l'impression tout de même que c'est vrai que ces mécanismes d'alerte n'existent pas. Effectivement, comme vous le dites, Claire, c'est des initiatives. On a vraiment le sentiment d'abandon. Philippe Pujol, dans votre livre, il y a ce témoignage de cette mère de famille qui a perdu un fils, qui a perdu ensuite son mari, qui sent que ses autres enfants risquent de les perdre. Elle habite toujours dans une situation extrêmement dangereuse pour ses enfants. Rien n'est fait.
Je la vois tous les jours et je vois ses enfants s'enfoncer toujours plus. Ça me surprend que malgré la publication d'un livre, un livre qui marche, avec quelqu'un de médiatisé qui en parle sans arrêt, il se passe rien de réellement concret pour cette dame et surtout pour ses gosses. Je n'arrive pas du tout à comprendre. Je prévenais les préfets, je prévenais des élus, tous ils me tapent sur le dos en disant c'est pas normal. Et puis rien.
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 Claire ?
Oui, puisqu'on parlait aussi de politique, je pense que s'il y a une question majeure à retenir, c'est l'incohérence de cette loi de 1970 qui criminalise indifféremment le recel, la détention, la vente, l'usage de toutes les drogues. Et cette criminalisation de l'usage de drogue et de la vente aussi génère aussi des criminalités.
Et permet d'avoir des bons chiffres quand on est côté ministère. Voilà, c'est tout.
Vous disiez, vous précisez, Philippe Pujol, dans votre ouvrage, que pendant le soulèvement dit des banlieues en France, il y a une autre forme de soulèvement qui a lieu à Marseille, c'est l'extension finalement de ces trafics, l'extension aussi un peu de règlement de compte, hein, c'est ça que vous précisez, de braquage, voilà, pardon, toute une extension de braquage. Avec Charles Robinson, l'ouvrage Fabrication de la guerre civile, on a l'impression, Charles Robinson, que le livre se termine par une implosion. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu ma cité va craquer et elle finit par craquer, quoi, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça explose. Alors ça explose sur un malentendu, sur une confusion, mais c'est le propre de ces espaces qui sont extrêmement confus, mais ça finit par exploser. Est-ce que on ne pourrait pas souhaiter finalement une forme d'explosion dans ces espaces-là?
À Marseille, ça n'explose pas parce qu'à Marseille, le tissu associatif existe. Alors il est beaucoup clientéliste, mais pour autant, il est actif quand même et il a un rôle très important. Il y a encore une identité marseillaise qui fait que on n'est pas obligé il y a pas de violence urbaine. C'est un peu grâce à ça aussi. Je sais pas si en plus on peut résoudre un problème par une révolution violente. Je n'y crois pas. Je pense que la violence, ça fait juste des dégâts, c'est tout.
Charles Robinson, ça explose à la fin. On a l'impression qu'il y a là quand même tout de même comme un souhait, comme un désir d'une implosion aussi dans votre ouvrage Fabrication de la guerre civile.
Je ne sais pas si on peut parler de désir, mais en revanche, ce qui est certain, c'est que pour moi, il y a presque l'image de la tectonique des plaques, c'est-à-dire que ce qui se produit à la fin du livre, c'est que toutes les pressions qui ont été accumulées, de tout ordre, des pressions individuelles, des accidents, mais aussi évidemment la question sociale, la question du trafic, la violence ambiante, tout ça qui exerce un ensemble de pressions et de contraintes sur les individus, se relâche comme en tectonique des plaques quand deux plaques bougent, et donc il y a cette libération de toutes les énergies, de toute la rage, de toute la colère, aussi d'une espèce de puissance. Et je crois que c'est un des éléments qui est peut-être important dans ce genre de moment, c'est que c'est le moment où on cesse de subir pour passer dans une espèce d'action. Et finalement, même si c'est l'action, elle débouche pas sur une solution politique, il y a cette espèce. Effectivement, le livre se termine de manière un peu paradoxale, on pourrait croire, par une espèce de libération qui est une libération de joie. Il y a une dimension de joie, même dans ce moment de grande destruction.
Antoine, c'est pas...
En tout cas, oui. Une espèce de grande libération d'énergie, on va dire.
Voilà, c'est cette libération d'énergie qui n'est pas forcément motivée par un désir, mais c'est comme si, à un moment donné, tellement contenu, effectivement, que ça finit par exploser et se relâcher d'un coup. Claire, un dernier mot ?
Oui, en même temps, si les jeunes des cités, comme on dit, étaient si méchants et dangereux qu'on voudrait bien le dire, ça fait longtemps qu'ils auraient tout fait péter.
Merci beaucoup à vous, merci Philippe.
Oui, je veux conclure. Quand on regarde la couverture de mon livre, il y a une photo. Cette photo, on regarde une petite fille, personne ne la regarde regarde de près. Et en fait, elle fait des doigts à l'objectif. Et en fait, c'est ce qu'elle répond au monstre. Et je voudrais juste te dire que le 12 mai, ben, je sors un livre avec le photographe, avec Gilles Favier. On sort un livre qui s'appelle Marseillais du Nord, les seigneurs de Naguère. Et c'est ses photos et des textes de moi.
Merci Philippe Pujol. Merci Claire Duport. Merci également Magali Géant. Merci Charles Robinson. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de Radio Grenouille, www.radiogrenouille.com.
Le Grand 8, l'émission qu'on écoute en boucle.